Je rappelle que la deuxième partie d'Ésaïe concerne surtout le retour des Israélites de leur exil à Babylone, d'ailleurs déjà bien des années après la mort d'Ésaïe, qui vivait à l'époque de l'empire précédent, celui des Assyriens. Mais, comme on l'a vu à partir du chapitre 60, l'horizon de ces prophéties est encore plus lointain et Ésaïe entrevoit l'aboutissement de l'histoire de l'humanité. La dernière fois, nous avons vu au chapitre 60 la gloire future de Jérusalem, qui est en fait le peuple de Dieu de la Nouvelle Alliance, on l'a bien vu dans l'Apocalypse, et nous avons vu qu'il parle de l'éternité vécue sur la nouvelle terre, sous les nouveaux cieux, la présence éternelle de Dieu avec son peuple dans la gloire. Le chapitre 61, que nous allons regarder aujourd'hui, met en avant plutôt l'étape décisive entre les deux. Il s'agit de la venue de Jésus pour inaugurer cette future réalité, de par son enseignement sur le royaume qui vient, et bien sûr par sa mort et sa résurrection. On peut diviser ce chapitre en deux parties. Les quatre premiers versets, on peut donner le titre Une bonne nouvelle, et les versets 5 à 11, auxquels j'ai donné le titre La transformation. En fait, ce chapitre est tellement riche que nous ne pouvons pas faire autre chose que d'effleurir certains trésors que nous y trouvons. On pourrait passer des heures en fait à parler de chaque verset, mais c'est bien quand même de voir l'ensemble. Je vais lire donc les quatre premiers versets et je pense que pas mal d'entre vous, vous allez voir tout de suite qu'il s'agit de versets que Jésus lui-même a prononcés au début de son ministère. Il a repris ces versets dans le prophète Ésaïe. Donc lisons les versets 1 à 4. L'Esprit du Seigneur de l'Éternel est sur moi, parce que l'Éternel m'a consacré par onction pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres, et m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux déportés la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour proclamer une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous ceux qui sont dans le deuil, pour donner aux habitants de Sion en deuil une belle parure au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un costume de louange au lieu d'un esprit abattu. On les appellera alors les térébintes de la justice, la plantation de l'Éternel destinée à manifester sa splendeur. Ils reconstruiront sur d'anciennes ruines, ils releveront les décombres du passé, ils rénoveront des villes dévastées, des décombres vieux de plusieurs générations. Il y a bien sûr une certaine référence au retour de l'exil. Au verset 1, on parle de proclamer aux déportés la liberté. Au verset 4, il est bien question de la reconstruction du pays. Ils reconstruiront sur d'anciennes ruines. Mais il est impossible de lire ces versets sans penser à Jésus. Et comme j'ai dit, pour cause. Et en fait, plutôt que de faire le commentaire de ces versets à partir d'Ésaïe, je vous invite à trouver Luc chapitre 4 et nous allons faire le commentaire à partir du commentaire de Jésus, on va dire. Donc Luc chapitre 4. Je vais lire les versets 16 à 21. Jésus se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et conformément à son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. Il le déroula et trouva l'endroit où il était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. et m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur de Essassi. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors, il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Alors, que dit ce texte que Jésus a lu? D'abord, que l'Esprit du Seigneur est sur lui, parce qu'il m'a consacré par onction. Donc, certaines versions de la Bible ont dit tout simplement, il m'a oint. Et le mot le Messie veut dire celui qui a reçu une onction. Donc, Jésus se proclame dès le début de son ministère comme étant le Messie attendu. Deuxième constat, c'est que il termine la lecture au milieu d'une phrase. Lui, il termine avec les mots « une année de grâce du Seigneur » alors que le texte d'Ésaïe continue « un jour de vengeance de notre Dieu ». Je pense que Jésus l'a fait exprès. La vengeance ou le jugement de Dieu est bien présent, mais il a dit lui-même qu'il est venu plutôt pour sauver que pour juger. Le jugement, c'est pour après, ceux qui refusent le jugement. Et dans le prophète Ésaïe, il est presque pas question du jugement de Dieu dans ce chapitre 61, et Ésaïe revient sur ces questions du jugement au chapitre 63. Ensuite, on a en quelque sorte la mission de Jésus en quelques mots. Il m'a envoyé pour apporter une bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ça ne se trouve pas dans tous les évangiles, dans toutes les versions d'ailleurs, de cet évangile, dans tous les manuscrits, mais il est bien quand même dans Ésaïe, pour proclamer aux prisonniers de la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. Et toutes ces phrases, en fait, on peut les comprendre à deux niveaux. On peut les comprendre dans un sens premier, dans le sens matériel, physique, et dans un deuxième sens, comme des symboles du salut. Je vais expliquer cela. D'abord, au sens premier, matériellement, physiquement, quand Jésus a dit qu'il a annoncé une bonne nouvelle aux pauvres. Les pauvres en esprit, ou comme il dit un peu ailleurs, ce sont souvent les personnes plutôt marginalisées de la société, les pauvres, ceux qui, pour des raisons matérielles, sociales, religieuses, étaient exclus de la vie sociale. Par exemple, les publicains, les péagers, les collecteurs d'impôts, qui étaient considérés comme des collaborateurs avec le pouvoir romain. C'était même exploiteurs, ils devaient acheter leurs charges et récupérer la mise en quelque sorte. Donc ils taxaient à fond leur propre peuple. Une autre catégorie de personnes que Jésus a côtoyées, c'était les prostituées, ou la femme samaritaine, qui, elle, était un peu mise en quarantaine par les autres habitants du village et devait venir puiser l'eau à midi, alors que les autres venaient plutôt le soir. Donc Jésus a bien accueilli les pauvres, les marginalisés. Il a aussi délivré ceux qui étaient possédés d'un esprit impur. Donc quand on dit « renvoyer libre les opprimés » ou « proclamer aux prisonniers la délivrance », et nous avons plusieurs récits dans les évangiles, comment il a chassé les esprits impurs. Je pense par exemple à ce garçon possédé qui tombait dans le feu et dans l'eau, dans Matthieu 17 ou dans Marc 5. L'homme dans le pays des Gadaréniens, qui étaient possédés d'une légion de mauvais esprits, au point où ils se donnaient le nom légion. Et troisième chose, Jésus a guéri les aveugles. Donc, il a donné aux aveugles le recouvrement de la vue. À plusieurs reprises dans les évangiles, plusieurs dans Luc 7. Un aveugle de naissance dans Jean 9. Dans Marc 10, un mendiant aveugle dont on connaît le nom, Bartimée. Ou dans Matthieu 20, deux aveugles assis sur le bord du chemin en sortant de Jéricho. Donc, toutes ces choses que Jésus a annoncées, il a fait dans un premier temps, sur le plan tout à fait matériel, physique, hein, donc des délivrances, des guérisons. Et dans un deuxième temps, on peut les comprendre également comme des symboles du salut. D'ailleurs, depuis le temps des apôtres, il y en a vu les œuvres de puissance de Jésus comme des symboles du salut. Je prends les mêmes catégories que j'ai annoncées tout à l'heure. La pauvreté, la délivrance et l'aveuglement. D'abord, la pauvreté. La pauvreté spirituelle, qui est le préalable, la condition pour qu'on accepte le salut. Je peux citer par exemple Jacques chapitre 2 et le verset 5. Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qu'il aime. Les pauvres aux yeux du monde. Et en fait, pour accéder au salut, il faut se reconnaître pauvre spirituellement. Et c'est pour cela que le grand principe du Nouveau Testament, c'est que c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Nous ne pouvons pas le mériter, nous sommes pauvres. On ne peut pas l'acheter en quelque sorte par notre soi-disant richesse spirituelle. Les pharisiens cherchaient à faire cela, à se prévaloir de leur richesse spirituelle, mais les pauvres reconnaissent leurs besoins de Dieu. Et comme résultat, on cite en Romains chapitre 3, ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Un deuxième mot, le mot en grec, c'est « aphésis », qui traduit le mot « délivrance » ou « libération », mais en fait, c'est le mot qui habituellement est utilisé dans le Nouveau Testament, tout simplement pour le pardon. Parce que quand nous sommes délivrés de nos péchés, c'est parce que nos péchés sont pardonnés. Et c'est ainsi que nous sommes délivrés de notre passé, délivré de l'emprise de Satan, pour avoir accès à Dieu en tant que Père. Je peux citer quelques versets, ne serait-ce que dans le livre des Actes, hein, où ce même mot, traduit ici délivrance, est traduit pardon. Dans Acte 2, verset 38. Pierre leur dit, le jour de la Pentecôte, « Changez d'attitude, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. » Au chapitre 5 et le verset 31. Dieu l'a élevé à sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Ça, c'est ce que les apôtres disent devant le Sanhédrin. Au chapitre 10 et le verset 43, Pierre se trouve devant le centenier romain Corneille et il dit, 10:43, « Tous les prophètes rendent de Jésus le témoignage que toute personne qui croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. » Acte 13 et le verset 38. Sachez donc, mes frères, là, il est dans la synagogue, Paul est dans la synagogue à Antioche, il parle à ses corps religionnaires juifs. Sachez donc, mes frères, que c'est par Jésus que le pardon des péchés vous est annoncé. Voilà quelques versets dans les Actes qui montrent que ce mot délivrance, fondamentalement est aussi le pardon de nos péchés. Et puis, troisième chose, l'aveuglement. L'aveuglement spirituel est souvent mis en avant comme la raison pour laquelle nous devons mettre notre foi en Jésus pour être guéris de cet aveuglement spirituel. Dans 2 Corinthiens chapitre 3, par exemple, en 2 Corinthiens chapitre 3, et les versets 14 à 16, Paul parle de cet aveuglement comme un voile qui obscurcit l'intelligence. 2 Corinthiens 3, 14. Leur intelligence est obscurcie. Jusqu'à aujourd'hui, en effet, le même voile reste lorsqu'ils font la lecture de l'Ancien Testament. Ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qui disparaît. Verset 16. Lorsque quelqu'un se convertit au Seigneur, le voile est enlevé. Et c'est pour cela que le chapitre suivant, 2 Corinthiens 4 et le verset 4, il dit que pour les incrédules dont le Dieu de ce monde a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller l'éclat que projette l'évangile de la gloire de Dieu, il y a quand même, pour ceux qui périssent, au verset 3, la réalité que l'évangile est encore voilé. En revanche, en Jésus, cette obscurité est enlevée. Et nous pouvons marcher dans la lumière. En Jean 1, verset 7, nous marchons dans la lumière parce que Jésus est la lumière. Il dit deux fois d'ailleurs dans l'évangile de Jean, « Je suis la lumière ». Certains pourraient dire, voilà, il y a donc une certaine ambiguïté entre le matériel et le spirituel. Mais je pense que ça, c'est un peu peut-être notre façon un peu occidentale de voir les choses, parce que dans le monde antique, surtout pour la pensée juive holistique, le matériel et le spirituel se rejoignaient. Donc on peut dire aujourd'hui qu'on ne peut pas, on ne doit pas faire de différence, de conflit entre l'évangélisation et l'action sociale, apporter l'évangile et apporter et faire du bien à ceux qui nous entourent. Les deux se rejoignent totalement. Donc, voilà, on va revenir dans Ésaïe chapitre 61. Nous avons donc vu que ces premiers versets, c'est la bonne nouvelle qui est annoncée par celui qui vient et qui a été oint, qui a reçu l'onction pour faire tout cela. Mais nous le savons, nous qui sommes chrétiens, que la bonne nouvelle du salut, la justification par la foi, est suivie de tout un travail de sanctification où on développe notre relation avec Dieu. Et c'est cela dont il est question dans la deuxième partie de ce chapitre, Ésaïe 61. Je lis donc des versets 5 à 11. Des inconnus se présenteront et s'occuperont de vos troupeaux. Des étrangers seront vos cultivateurs et vos vignerons. Quant à vous, on vous appellera prêtres de l'Éternel. On vous dira serviteurs de notre Dieu. Vous mangerez les ressources des nations, vous tirerez profit de leur gloire. Au lieu de la honte, vous aurez une double part. Au lieu de connaître l'humiliation, ils crieront de joie en voyant leur héritage. C'est ainsi qu'ils posséderont le double dans leur pays. Leur joie sera éternelle. En effet, moi, l'Éternel, j'aime le droit. Je déteste voir le vol associé aux holocaustes. Je leur donnerai fidèlement leur récompense. Je conclurai une alliance éternelle avec eux. Leur descendance sera connue parmi les nations, leur progéniture parmi les peuples. Tous ceux qui les verront reconnaîtront qu'ils sont une lignée bénie de l'Éternel. Je me réjouirai en l'Éternel. Tout mon être tressaillera d'allégresse à cause de mon Dieu, car il m'a habillé avec les vêtements du salut. Il m'a couvert du manteau de la justice. Je suis paré au jeune marié qui, tel un prêtre, se coiffe d'un turban splendide, à la jeune mariée qui se pare de ses bijoux. En effet, tout comme la terre fait sortir son germe, tout comme un jardin fait pousser ses semences, le Seigneur l'Éternel fera pousser la justice et la louange devant toutes les nations. Donc, au premier niveau, je reviens à ce que je disais au départ, on ne doit pas perdre de vue qu'Ésaïe parle de cette réalité du retour de l'exil. Il y a un certain nombre de détails dans cette deuxième partie du chapitre qui parle, dans un premier temps, de ce retour, où on avait vu au verset 4, les ruines vont être reconstruites. Maintenant, on parle des troupeaux, de cultivateurs, de vignerons, même avec l'aide des étrangers. Mais il me semble quand même nécessaire aussi de voir cet horizon plus lointain que nous avons déjà vu au quatre premiers versets, que tout ce qui est dit là avec le mot ils feront ça, ils feront autre chose, c'est ils, c'est certainement le peuple de Dieu qui se réalise pleinement avec la nouvelle alliance. Je vais donc simplement pointer une ou deux choses dans ces versets qui le démontrent et qui peuvent nous réjouir. Hein. D'abord, cette notion au verset 6 que on vous appellera prêtre de l'Éternel. C'était déjà annoncé lors de la première alliance dans Exode chapitre 19. On dit au verset 6, vous serez pour moi un royaume de prêtres, une nation sainte. Mais ces versets-là, l'apôtre Pierre revient dessus, il les cite tels quels en les appliquant aux chrétiens, en les appliquant à l'Église. On peut lire par exemple dans 1 Pierre chapitre 2, les versets 5 et 9. 1 Pierre chapitre 2, verset 5. Vous-même, en tant que pierre vivante, laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle, un groupe de prêtres saints, afin d'offrir des sacrifices spirituels que Dieu peut accepter par Jésus-Christ. Et verset 9. Vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté, afin de proclamer ses louanges, les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Nous sommes donc, en tant que chrétiens, tous sacrificateurs. Cela est redit au début de l'Apocalypse, avec ce verset de louange. Ça commence la deuxième partie du verset 5, Apocalypse 1, 5, à celui qui nous aime, qui nous a lavés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume des prêtres pour Dieu son Père. Et là, on rejoint cette formulation du protestantisme en réaction à la nécessité catholique de voir avec les ministres de l'Église catholique des prêtres qui auraient des privilèges. Non, on a parlé du sacerdoce universel. Chaque chrétien, chaque croyant est au service de Dieu. Il est prêtre en quelque sorte parce que, d'une part, il a libre accès auprès de Dieu, comme les prêtres de l'Ancienne Alliance, et parce qu'il apporte des sacrifices. Certes, il n'apporte plus les sacrifices d'animaux, hein, bon, on n'en a plus besoin de ces sacrifices, parce que Jésus est l'agneau de Dieu, l'aboutissement de ces sacrifices de l'Ancien Testament, qui étaient là comme symbole du vrai sacrifice, et d'ailleurs le temple de Jérusalem n'existe plus. On ne peut plus offrir de sacrifices. Mais nous pouvons offrir des sacrifices. Trois sacrifices sont mentionnés dans le Nouveau Testament. D'abord dans Hébreux 13, les versets 15 et 16. Par Christ, offrant donc sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui reconnaissent publiquement lui appartenir, donc louer Dieu, faire son éloge. On reconnaît qu'on lui appartient. Deuxième chose, verset 16, n'oubliez pas de faire le bien, de vous entraider, car c'était tel sacrifice que Dieu prend plaisir. Donc, et du sacrifice de nos biens matériels, de notre temps, pour nous entre-aider. Et puis dans Romains 12, il va encore plus loin, parce qu'il dit, Romains 12 et le verset 1, « Je vous encourage donc, frères et sœurs, donc chacun de nous, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. » Nous pouvons donc offrir le sacrifice de nous-mêmes, parce que nous sommes tous prêtres, selon cette prophétie d'Ésaïe. Vous êtes prêtres de l'Éternel, on vous dira serviteurs de notre Dieu. Ésaïe 61 et le verset 5. Une autre chose, au verset 7, nous ne connaîtrons plus la honte, nous ne connaîtrons plus l'humiliation, au contraire, nous serons dans la joie. Ils crieront de joie en voyant leur héritage. Notre héritage est éternel. Leur joie sera éternelle, parce que nous faisons partie d'une alliance éternelle. Donc, il en parle de cette alliance éternelle au verset 8. Nous pouvons donc être dans la joie. Et j'ai compté une fois, le mot joie revient 60 fois dans le Nouveau Testament et se réjouir 80 fois. Nous aurons donc une joie éternelle, ça fait partie de notre transformation. Pas évident. Nous sommes dans un monde difficile. Nous sommes entourés souvent de râleurs. Donc, on dit que c'est un peu le propre de notre peuple, d'être un peu râleur. Mais nous, en tant que chrétiens, nous pouvons être dans la joie, parce que notre joie ne dépend pas des circonstances. Notre joie vient du fait que nous appartenons au Seigneur et que nous avons un héritage éternel. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes ses fils et ses filles. Et c'est pour ça que ce chapitre termine avec comme une sorte de chant de louange, de chant de joie, au verset 10, « Je me réjouirai en l'Éternel. Tout mon être tressaillera d'allégresse à cause de mon Dieu. » Donc nous sommes dans l'allégresse, je pense que nous pouvons vivre cela. Moi le premier, j'ai beaucoup à apprendre dans tout cela, mais comme on a dit, la sanctification est progressive, nous sommes dans la transformation, dans cette deuxième partie d'Ésaïe 61, un jour nous connaîtrons la transformation totale au moment du retour du Seigneur. Mais en attendant, nous pouvons nous réjouir. Nous sommes revêtus de salut et de justice accordés gratuitement. Revêtus, ce verset 10 le dit, comme un jeune marié qui se coiffe d'un turban splendide, comme une jeune mariée qui se part de ses bijoux. Et encore aujourd'hui, lors d'un mariage, des gens mettent de beaux vêtements pour ce moment important. Et je rappelle donc que dans le Nouveau Testament, déjà dans l'Ancien Testament, le mariage est vu comme une sorte de reflet de la relation entre Dieu et son peuple. Et ce chapitre termine avec le fait que la justice et la louange sera proclamée devant toutes les nations. Et là encore, c'est une des caractéristiques de cette nouvelle alliance. La première caractéristique, c'est la grâce. Et la deuxième, que la nouvelle alliance est ouverte à tous les peuples. Réjouissons-nous donc de tout ce que Jésus a accompli. Même si nous sommes actuellement dans l'entre-deux, nous sommes déjà ses enfants, pas encore dans la gloire, mais nous pouvons quand même vivre cette année de grâce de l'Éternel. Réjouissons-nous, je le dis pour vous, je le dis pour moi, réjouissons-nous dans ce si grand salut que nous avons en Jésus. Amen.